Ce serait bien trop long, mais on va lire quelques portions donc de ces chapitres pour essayer d'en tirer l'essentiel. Alors, à Crée, il y a plusieurs fontaines qui sont en réalité des points d'eau. Il y a environ 2 ans, donc le projet a été réalisé de complètement les restaurer. Et ça m'a fait penser à une histoire qui a été mise en sketch d'une fontaine au milieu d'un village qui ne fournissait donc plus d'eau. Et les habitants font venir tour à tour un peintre qui vient repeindre la fontaine, mais sans succès, toujours pas d'eau. Puis ils font venir un designer, un artiste, qui va donner un super nouveau look à cette fontaine, mais toujours pas d'eau. Et finalement, un des villageois a une idée extraordinaire, c'est d'appeler le fabricant de la fontaine. Et celui-ci donc va la démonter, il va trouver le problème, et après réparation, l'eau s'écoule à nouveau. Et c'est ce qui s'est passé aussi à Crée. Bien plus qu'un relooking sur ces fontaines, sur ces points d'eau, l'intervention majeure consistait à réparer les mécanismes, ce qu'il y a à l'intérieur des fontaines. Et c'est ce que l'on veut découvrir aujourd'hui au travers des chapitres 8 et 9 de Genèse. L'être humain a besoin de plus qu'un changement extérieur. Il a besoin d'un changement intérieur. Alors rappelez-vous jusqu'ici, on a Genèse 3, après la création, dans Genèse 1 et 2, Genèse 3, le péché entre dans cette création parfaite de Dieu. Depuis, le mal se propage et augmente en intensité jusqu'à Genèse 6-7, où on assiste au jugement de Dieu comme une juste réaction face à ce mal. Dieu est parfait et le mal ne peut rester impuni. Alors Dieu envoie le déluge et procède ainsi à une décréation de sa création. Tout est noyé à l'exception de Noé, de sa famille et de quelques animaux. Dieu fait grâce à Noé. Noé n'était pas quelqu'un d'exceptionnel en soi, mais il faisait confiance à Dieu. Et cela nous révèle deux facettes de la justice de Dieu. Dieu, dans sa justice, juge le péché. Et Dieu, dans sa justice, fait aussi grâce. Genèse 8 et 9 nous plongent donc dans la suite de l'histoire de Noé. C'est l'heure d'un nouveau départ pour les habitants de l'arche. Mais au cœur de ces deux chapitres, il y a surtout une alliance, une promesse que Dieu fait à sa création et à l'humanité. Je lis. Genèse 9, chapitre 9, versets 11 à 15. Je m'engage envers vous par alliance à ce que toutes les créatures ne soient plus jamais détruites par les eaux d'un déluge et qu'il n'y ait plus de déluge pour ravager la terre. Et Dieu ajouta, voici le signe de l'alliance que je conclus pour tous les âges à venir entre moi et vous et tout être vivant qui est avec vous. J'ai placé mon arc dans les nuées. Il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'accumulerai des nuages au-dessus de la terre et que l'arc apparaîtra dans la nuée, alors je me souviendrai de mon alliance avec vous et avec tout être vivant, quel qu'il soit, et les eaux ne formeront plus de déluge pour détruire l'ensemble des créatures. Cet engagement que Dieu prend est inconditionnel. Il s'engage lui-même à préserver sa création et signe cet engagement par l'arc-en-ciel. Dieu promet de ne plus jamais détruire sa création par l'eau. Et au travers de cette alliance, on va voir ce matin que notre Dieu est un Dieu qui s'engage. Et j'aimerais te relever trois constats à partir de Genèse 8 et 9. Le premier, c'est que Dieu s'engage après un nouveau démarrage. L'histoire pour Noé et sa famille prend un tournant dès le verset 1 du chapitre 8. Il est dit « Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui se trouvait avec lui dans l'arche. » Quand on lit ça, on peut réellement se poser la question et se dire « Mais vraiment, est-ce que Dieu pouvait avoir oublié Noé ?» Non. Quand il est dit dans la Bible que Dieu se souvint d'eux, c'est souvent lié au fait qu'il va se mettre en action en faveur d'une personne ou en faveur de son peuple. Et cette mise en action est motivée avant toute chose par son amour et par sa compassion. Donc la situation va s'améliorer pour Noé et ceux qui sont à bord de l'arche. Et si la montée des eaux dont nous a parlé Eric la semaine dernière était décrite dans des termes de décréation de la création de Dieu, la décrue des eaux inaugure un nouveau départ, un nouveau commencement décrit dans des termes semblables aussi au récit de la création de Genèse 1 et 2. Alors on ne va pas tous les regarder, mais on va regarder quelques-uns. Dieu opère donc une recréation. Alors on y voit d'abord un nouveau départ, un nouveau commencement pour la terre. Il est question du souffle de Dieu. Chapitre 8, Genèse chapitre 8, verset 1. Il, donc Dieu, fit souffler un vent sur la terre. Alors les eaux se mirent à baisser. Et si on regarde dans Genèse chapitre 1, le verset 2, les ténèbres couvraient l'abîme et l'esprit, donc c'est le même mot pour le souffle, c'est comme c'est dit, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Ensuite, on a l'apparition de la terre ferme. Genèse 8:5, les eaux continuèrent à baisser jusqu'au dixième mois. Le premier jour de ce mois, les sommets des montagnes apparurent. Et dans Genèse chapitre 1 verset 9, et Dieu dit, je veux que les eaux d'au-dessous du ciel se rassemblent en un seul endroit afin que la terre ferme paraisse. Et ce fut ainsi. Et puis, on a aussi la mention donc de plusieurs animaux, donc en Genèse 8, 17 à 19, et dans Genèse chapitre 1, 20 à 25. On ne va pas tout lire. Donc, on y voit un nouveau départ pour la terre, mais on y voit aussi un nouveau départ pour l'homme. Et là, donc, un nouveau départ pour l'homme, et il est question donc à nouveau de l'image de Dieu. Regardez Genèse chapitre 9, verset 6. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, son sang sera versé par l'homme, car Dieu a fait l'homme à son image. Et si on prend Genèse 1, 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Ici, on voit combien la vie de l'homme est précieuse pour Dieu. Il réaffirme que l'homme est porteur de son image. L'homme est le représentant de Dieu sur terre. Et en cela, porter atteinte à la vie de l'homme équivaut à porter atteinte à Dieu lui-même. Ça, c'est le contexte de 9-6. Ensuite, il y est question à nouveau de la bénédiction de Dieu et du mandat qu'il accorde à l'homme, qui est de remplir la terre et de la dominer. Genèse 9, 1 et 2. « Dieu bénit Noé, ainsi que ses fils, et leur dit, « Soyez féconds, et multipliez-vous et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et terreur pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui rampe sur le sol et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. » Genèse 1, 28. le parallèle. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Et puis, on y voit aussi un parallèle au niveau de la nourriture, l'attribution de la nourriture. Dans Genèse 9.3, tout ce qui se déplace et qui vit vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela de la même manière que je vous ai donné l'herbe verte. Et Genèse chapitre 1.29, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence sera votre nourriture. Dieu offre un nouveau départ à sa création et dans ce contexte, Noé est présenté comme un nouvel Adam. Et il y a quelque chose d'incroyable aussi entre Genèse 9, 20 et Genèse 3, 23. On voit que Noé va cultiver la terre et cela fait écho au fait qu'Adam devait aussi cultiver la terre d'où il avait été tiré. Dieu s'est engagé envers Noé et sa création juste après ce nouveau démarrage. Mais cet engagement est pris juste avant un nouveau dérapage. Il ne faut malheureusement pas attendre bien longtemps pour assister à un nouvel écart de la part de l'être humain. Genèse, chapitre 9, versets 20 à 27, et je lis. Noé se mit à cultiver la terre et il planta une vigne. Il en but le vin et s'enivra, de sorte qu'il se mit tout nu sous sa tente. Cham, le père de Canaan, vit son père nu et sortit pour le raconter à ses frères. Alors Sem et Japhet prirent la tunique de Noé et la placèrent sur leurs épaules. Puis ils marchèrent à reculons vers leur père et le couvrirent. Comme leur visage était tourné de l'autre côté, ils ne virent pas leur père tout nu. Quand Noé se réveilla de son ivresse, il apprit ce que son plus jeune fils avait fait. Alors il s'écria « Maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des esclaves de ses frères !» Puis il ajouta « Béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit asservi à Sem. Que Dieu étende le territoire de Japhet, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. » Au travers de cette nouvelle chute, il y a aussi de nombreux parallèles avec la faute d'Adam et le comportement de ses fils, Caïn et Abel. Adam mange du fruit défendu. Noé va boire du fruit de la vigne. Adam a honte de sa nudité. Noé expose sa nudité. Dieu va couvrir la nudité d'Adam. Et Sem et Japhet, les deux fils de Noé, vont couvrir la nudité de leur père. Caïn a une attitude différente de son frère Abel. Sem et Japhet ont une attitude différente de leur frère Cham. Caïn sera maudit. Et dans notre récit aujourd'hui, on voit que Canaan, le fils de Cham, sera maudit. Et maudit. En fait, le constat est assez flagrant. Il semble que l'histoire se répète. On assiste à un nouveau commencement. On assiste à un nouveau premier homme. Et on assiste, malheureusement, à un nouveau péché, à une nouvelle chute. Alors quand on lit cela, on peut se poser la question et se dire, Dieu fait cette alliance avec Noé avant cette chute. Mais est-ce que Dieu ne s'est pas engagé trop vite dans cette alliance vis-à-vis de sa création? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, la réponse est non. Dieu n'a pas été surpris par cet écart de Noé et de son fils. Il savait déjà que ce nouveau départ n'était pas un recommencement à zéro. Et c'est très juste ce qui a été mentionné. Et je relève aussi trois indices dans le texte. Si vous avez le passage devant les yeux, regardez Genèse chapitre 8, verset 21. Dieu dit: Jamais plus je ne maudirai la terre à cause de l'homme, puisque le cœur de l'homme est porté au mal dès son enfance. Dieu sait que le problème est intérieur à l'homme. Son cœur est corrompu. Un autre indice dans Genèse chapitre 9, verset 2. Dieu donc s'adresse toujours à Noé et sa famille, dit: Vous inspirerez désormais la crainte et la terreur à toutes les bêtes de la terre et à tous les oiseaux du ciel. Là, on voit que la relation entre l'homme et l'animal a changé par rapport à la première création. Elle est maintenant marquée donc par la crainte, par la terreur. Et puis, encore un indice en Genèse 5 qu'on a lu tout à l'heure, où Dieu annonce que le meurtre sera désormais sanctionné. Et là, ça nous montre assez bien que Dieu savait déjà alors qu'il y aurait d'autres meurtres à venir sur la terre. Qu'est-ce qu'on peut en conclure jusque-là? Eh bien, deux choses. La première, c'est que le déluge a noyé beaucoup de choses, mais il n'a pas noyé le péché. Il a purifié d'une certaine manière tout ce qui était extérieur à l'arche, mais il n'a pas nettoyé l'intérieur de l'homme, il n'a pas purifié son cœur. La deuxième chose que l'on constate au travers de ce récit, c'est que l'être humain est incapable de régler ce problème du péché lui-même. Et cette nouvelle chute de Cham en est la preuve. Alors que faire? Il semble donc que ce cycle se répète et cela semble sans solution. Et cette histoire qui se répète, qui est un petit peu sans fin, me fait penser au film, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelle le film Un jour sans fin, où un homme revit constamment la même journée. Et il a beau faire vivre ses journées, en fait, il s'endort le soir et quand il se réveille le matin, c'est de nouveau la même journée. Et en fait, on se rend compte que cette journée va arrêter de se reproduire quand cet homme, qui est un petit peu aigri par la vie, commence à changer de comportement et à faire du bien aux personnes et aux autres autour de lui. Alors, Dieu sait que le problème est bien plus profond qu'un problème de comportement juste. Il sait que ce problème se trouve au niveau de notre cœur. Et comme l'intervention indispensable sur le mécanisme de La Fontaine que le seul fabricant pouvait effectuer, Dieu sait qu'il doit lui-même régler ce problème du péché. Et c'est ce qu'il a prévu. Par son alliance avec la création, Dieu s'engage pour un nouveau sauvetage. À l'image de ce qu'il a fait pour Noé, Dieu désire offrir à chacun sur cette terre la possibilité d'un vrai nouveau départ. Mais il sait que pour ça, il doit opérer une transformation du cœur humain. Alors on a vu en Genèse 3 que le péché, c'est notre désir de vivre notre propre vie sans Dieu, en le mettant de côté. Nous avons aussi vu en Genèse 1 et 2 que nous avons été créés par Dieu et pour Dieu. Et c'est que dans le cadre de cette relation avec Dieu que nous pouvons nous épanouir pleinement, profondément et durablement. Dieu veut donc purifier nos cœurs et par cela nous réorienter vers lui. Un peu plus loin, dans la Bible, dans le livre de Deutéronome au chapitre 30, verset 6, Dieu va dire ceci: « Le Seigneur votre Dieu purifiera votre cœur et le cœur de ceux qui naîtront après vous. Alors, vous l'aimerez de tout votre cœur et de tout votre être. Ainsi, vous pourrez vivre. » C'est une nouvelle promesse de Dieu à son peuple, et cette promesse revient comme un refrain à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Dieu sait qu'il doit s'occuper de notre cœur. Alors comment est-ce que Dieu va procéder pour opérer ce sauvetage? Après Noé, le mal va continuer de se propager et de s'intensifier jusqu'à un sommet qui correspond à l'épisode de la tour de Babel qu'on verra prochainement. Et dans la suite logique de ce nouveau commencement, ce nouvel Adam, cette nouvelle chute, cette nouvelle propagation du mal, on devrait s'attendre logiquement, dans Genèse chapitre 12, à un nouveau jugement de Dieu. Mais il n'en est rien. En fait, Dieu suspend son jugement. Il n'est pas annulé, mais il est repoussé à plus tard. Comme il l'a annoncé à Noé, Dieu choisit de préserver sa création malgré le mal qui s'y trouve. Il choisit délibérément de maintenir les saisons et tout ce qui est nécessaire pour que la vie se poursuive sur terre et que l'humanité continue de se développer. Ce report du jugement annonce donc une longue période où Dieu fait preuve de grâce et de patience envers l'humanité. Et puis un jour, au travers d'une lignée d'hommes et de femmes que Dieu va garder fidèles à lui, il va venir lui-même sur cette terre en la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ sera ce super nouvel Adam qui réussira parfaitement là où le premier Adam et Noé, donc ce nouvel Adam, ont échoué. Il vivra une vie parfaite dans une relation parfaitement harmonieuse avec son Père. Et sur la croix, il va prendre sur lui nos fautes, tout le mal qu'on a fait. Sur cette croix, ce n'est pas un déluge d'eau qui va s'abattre sur Christ, mais c'est la colère de Dieu contre tout ce mal commis. Jésus va recevoir à notre place le juste jugement que nous méritions, c'est-à-dire la mort. À propos de l'arc-en-ciel, il y a quelqu'un qui a écrit ceci. Comme un guerrier qui range son arc et ses flèches à la fin d'une grande bataille, Dieu dit : Tu vois, j'ai rangé mon arc dans les nuages. L'arc de guerre de Dieu n'était pas pointé sur ses enfants. Non, il était pointé vers le haut, visant le cœur même du ciel. Fin de la citation. Jésus a pris notre place et toute personne qui croit cela peut être certain que Dieu a purifié son cœur. De plus, Dieu vient par son esprit habiter dans le cœur des croyants et il les rend capables de lui obéir et de vivre pour lui chaque jour sur cette terre. Voilà le plan de sauvetage que Dieu avait prévu et qu'il a déroulé jusqu'à aujourd'hui. Dieu est lui-même venu régler ce problème du péché en la personne de Jésus-Christ. L'arc-en-ciel est le signe qui nous rappelle que Dieu est un Dieu d'alliance. Un Dieu qui s'est engagé envers des hommes pécheurs. Dieu s'est engagé après un nouveau démarrage. Dieu s'est engagé avant un nouveau dérapage. Dieu s'est engagé pour un nouveau sauvetage. J'aimerais conclure avec 5 applications pratiques pour nous aujourd'hui. Dieu a dit qu'à chaque fois qu'il verrait l'arc-en-ciel, il se souviendrait de son alliance avec Noé. Et on a déjà vu, et on l'a dit ce matin, que Dieu n'oublie pas. Mais quand nous voyons un arc-en-ciel, nous pouvons nous rappeler que nous sommes encore dans une période de grâce pendant laquelle Dieu offre à chacun un nouveau départ grâce à Jésus-Christ. Alors je ne sais pas où vous en êtes ce matin dans votre relation avec Dieu, mais si vous n'avez pas encore pris ce nouveau départ avec lui, il est encore temps de le faire dès aujourd'hui et de vivre dès aujourd'hui la suite de votre vie avec Dieu. Deuxième application, l'arc-en-ciel doit aussi nous rappeler que le jugement de Dieu n'a pas été annulé, mais qu'il est reporté. Dieu nous dit de manière très claire dans sa parole qu'un jour, ce temps de grâce, ce temps de patience va prendre fin. Un jour viendra où Dieu va juger la terre non plus par l'eau, mais par le feu. Et toutes les personnes qui auront refusé sa grâce offerte en Jésus-Christ seront éternellement séparées de lui et passeront l'éternité dans de terribles souffrances et dans de terribles douleurs. Il est donc urgent de considérer cela et d'en parler autour de nous. Il est urgent d'être réconcilié avec Dieu, parce qu'un jour, vraiment, il sera trop tard. Encore aujourd'hui, que nous soyons croyants ou pas, nous sommes tous au bénéfice de cette promesse de Dieu de préserver la vie sur cette terre. C'est ce qu'on appelle la grâce commune de Dieu. C'est une grâce qui est commune à toute l'humanité. Ce n'est pas la grâce qui sauve, dont on a parlé par notre foi en Jésus-Christ, mais ce sont des bienfaits que Dieu accorde à tout le monde, que l'on soit bon, que l'on soit méchant. Chaque jour, nous pouvons respirer. Chaque jour, la terre produit en grande diversité de la nourriture, de quoi s'habiller, de quoi s'abriter. Chaque jour, et je dirais particulièrement aussi dans cette région de la Drôme, nous pouvons contempler la beauté de la nature qui nous entoure. Il y a tant de choses qui sont belles, il y a tant de choses qui sont bonnes sur cette terre. Et ces choses-là sont les effets de la bonté et de la compassion de Dieu. Elles nous viennent de lui et elle est pour tout homme, toute personne sur cette terre. Une quatrième application. Quand on voit la violence, la méchanceté, la cruauté et le mal qu'il y a globalement dans ce monde qui nous entoure, il est facile et rapide de se comparer et de se dire, ben, moi, je ne suis pas comme ces gens-là. En fait, j'ai jamais tué personne. Je n'ai jamais violé personne. Je ne me suis jamais même battu avec quelqu'un. J'ai jamais trompé ma femme, ni mon mari. Je suis plutôt quelqu'un de bien, globalement. Je ne suis pas forcément au top partout, mais de toute façon, qui l'est? Mais disons que si je me compare et si on fait une estimation globale, il me semble que je suis plutôt pas mal dans la moyenne. Et c'est vrai. Et ça l'est aussi pour beaucoup d'autres personnes de notre entourage qui vivent d'une manière juste, avec une éthique de vie qui est parfois bien souvent conforme aux normes morales que l'on trouve dans la Bible. Beaucoup de personnes font le bien et le font bien. Mais est-ce que derrière ce raisonnement, il n'y a pas l'idée sous-jacente que si un jour, effectivement, je dois me retrouver devant Dieu pour un jugement, eh bien je me dis que du coup, j'ai peut-être mes chances comparées à d'autres. Et j'aimerais juste amener deux éléments. Le premier, c'est que si les hommes ne sont pas tous aussi mauvais qu'ils pourraient l'être, c'est aussi lié à la grâce commune de Dieu dont on a parlé précédemment. Dieu intervient et met une limite au comportement de la plupart des êtres humains pour qu'ils n'atteignent pas des niveaux extrêmes de méchanceté et de violence. En cela, le mal est contenu. La deuxième chose, c'est que Dieu nous dit dans sa parole qu'il n'y a personne de juste sur cette terre. Seul Jésus l'était. Il est dit, le cœur de l'homme est porté au mal dès son enfance, dans le passage dont on a lu aujourd'hui. Même si mon comportement et mon éthique de vie sont exemplaires comparés à d'autres, ma principale faute consiste à naturellement rejeter Dieu pour mener ma propre vie. Tout homme a besoin de cette relation vitale avec Dieu. Tout homme a donc besoin de cette transformation intérieure, de cette transformation du cœur qui va l'amener à vivre pour Dieu. En tant que chrétien, on n'est pas soudainement devenu parfait moralement. Il nous arrive aussi dans notre chemin avec Dieu de faire des mauvais choix, de tomber, parfois de même de désobéir. Mais l'Esprit de Dieu qui habite en nous nous rend sensibles à ces erreurs, à ces faux pas, et nous encourage, nous pousse à revenir à Dieu, à lui demander pardon. Et à recevoir cette assurance qui nous est donnée dans la parole de Dieu, d'avoir l'assurance que Dieu nous pardonne et qu'on peut reprendre la route avec lui. Et enfin, une dernière application. Quand Noé est sorti de l'arche, la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a construit un autel et il a offert donc un holocauste à Dieu, un sacrifice, pour le remercier de l'avoir sauvé pour ce nouveau départ qui lui était donné. Alors si comme moi vous êtes au bénéfice de ce nouveau départ avec Dieu, que cela soit depuis peu ou que cela fasse depuis plusieurs années maintenant, que chaque nouvelle journée que Dieu va nous donner de vivre cette semaine et par la suite soit l'occasion de le remercier et de lui exprimer notre reconnaissance de nous avoir sauvés.